RMC jusqu'à 14h. Motors, Jean Lecroix.
Et bonjour à tous, si vous nous rejoignez seulement maintenant pour entendre parler de Formule 1, même si c'est un sujet qu'on a abordé, vous l'avez entendu certainement dans les grandes gueules du sport dans un instant, un thème que l'on va reprendre dans cette émission Motors, c'est évidemment la survie potentielle de ce Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 à Hockenheim ou au Nürburgring ou aux deux, c'est ce dont nous allons parler, puis on aura toutes les réactions sur cette grille de départ un peu particulière, puisque si Vettel a signé la pole tout près de chez lui, et bien malheureusement pour lui, Lewis Hamilton partira de très loin. On va parler de tout ça tout de suite avec Adrien Tambay. Salut Adrien.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Merci beaucoup d'être avec moi, c'est toujours un grand plaisir. Lucas Vinois va nous rejoindre dans un instant. Lucas qui a beaucoup bossé, beaucoup de son au programme de cette émission, je vous le disais. On écoutera aussi les pilotes français sur quelques thèmes qui animent le paddock de la Formule 1. Il s'agit de la modification potentielle du barème de points. Enfin, il y a beaucoup de choses dont on parle. On parle des pénalités. Vous savez qu'on est en pleine gestation concernant le règlement sportif et technique de la Formule 1 au-delà des années 2020. Adrien, je commence avec toi pour parler de d'Hockenheim, c'est un circuit que tu aimes bien, on l'évoquait hier, hein, qui réussit particulièrement à la famille Tambay, je vais oser dire, avec cette très belle victoire de Patrick pour la Scuderia Ferrari, c'était en 82, toi tu as signé des pôles ici à Hockenheim, t'es un peu chez toi aussi, Vettel est chez lui, mais toi aussi, avec tes années en DTM.
Ouais, c'est probablement un des circuits sur lequel j'ai le plus roulé dans ma carrière, avec mes 6 ans en DTM. On avait deux courses par an là-bas, une course pour commencer le championnat, et toujours traditionnellement une course pour la terminer aussi, 140 000 personnes qui venaient à chaque fois sur ce circuit, aussi populaire pour le DTM que pour la Formule 1, et c'est un peu le temple de la vitesse allemand, même si le circuit a été modifié depuis que mon papa a gagné en Formule 1. Ça serait vraiment 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 dommage si on venait à ne plus voir ce circuit au calendrier du championnat du monde de Formule 1. Ça serait quelque chose d'incompréhensible quelque part, quand on voit le nombre de fans aujourd'hui en Allemagne et puis les courses qu'il y a eu. Bon, après c'est toujours des choses qu'on ne maîtrise pas, la politique, le financement, et c'est toujours quelque chose de compliqué,
et on va en parler dans un instant. Vous l'avez compris, c'est le début de Motors, c'est le tour de chauffe, bien sûr.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Et voilà, avec l'hymne allemand bien sûr pour parler de ce tour de chauffe, de ce tour du circuit d'Hockenheim qu'il a eu la chance d'effectuer. J'ai le plaisir d'accueillir également Lucas Vinois. Salut Lucas.
Salut à tous, bonjour.
Salut Lucas.
Alors écoute, une question, et là c'est pas de circonstance, elle a vraiment, elle est motivée cette question. Est-ce que tu as sorti ta grenouille allemande des forêts environnantes du circuit? Qu'est-ce qui va se passer pendant ce Grand Prix? Parce que évidemment ce facteur météo, il est très important. Il y a eu un déluge hier matin dans la troisième séance d'essais libres.
Ouais, mais c'était assez incroyable parce que ça a séché très très vite. Il y avait beaucoup de vent, donc ça a aidé, mis à part dans le dernier secteur où les voitures passent moins vite, donc forcément on évacue un petit peu moins d'eau. Là on a des risques de pluie, 40% pendant la course, mais normalement il devrait y avoir un gros orage vers 17h. Donc normalement on devrait passer entre les gouttes ici. C'est presque dommage, on a envie de voir beaucoup de spectacles, beaucoup de dépassements, et on sait que des conditions climatiques particulières favorisent tout ça.
Allez, je l'ai dit, on a pas mal de sons à vous faire écouter puisque Lucas a bien bossé. On va commencer par écouter le poleman, Sébastien Vettel. Je vous le disais, c'est la 5e pole de la saison 2018, la 55e, c'est énorme, de sa carrière de pilote de Formule 1. Mais il nous parle de l'ambiance particulière qui règne ici sur ce tracé d'Hockenheim au micro de Lucas Vinois.
Lors d'un tour en qualification, vous êtes trop occupé à conduire la voiture et trouver la limite. Mais c'est vrai qu'après, j'ai essayé de profiter du moment, de regarder les tribunes, les gens et célébrer avec eux. C'est difficile de les entendre parce que la monoplace est assez bruyante, mais comme vous imaginez l'ambiance, c'est comme si vous les entendiez.
La grille de départ, elle est chaude, effectivement. Alors avec cette pole, Adrien, est-ce qu'il a, on a coutume de dire ça souvent en Formule 1, est-ce qu'il a fait 50% du boulot, Sébastien Vettel, à deux pas de son village d'origine et même de son domicile maintenant, ou est-ce que tout est à faire au contraire?
Oui, au moins 50% du boulot, Jean-Luc, je pense même 60%, puisque maintenant il va falloir juste prendre un bon départ, et avec la performance que la Ferrari a sur ce circuit, et en plus de ça apparemment avec son moteur, il y a eu un vrai step de fait chez Ferrari en termes de performance. En tout cas, Mercedes commence à s'en plaindre et commence à se défendre de ne plus être le meilleur moteur du plateau. Sébastien Vettel a fait le plus gros du job, surtout qu'ils se sont bien améliorés aussi sur les départs. On a vu lors des dernières courses qu'ils arrivaient à prendre l'avantage sur les Mercedes, donc ça va être très compliqué pour Valtteri Bottas d'aller chercher Sébastien Vettel. Il va falloir le faire très très vite, parce qu'après les stratégies vont, je pense, être sensiblement égales, et ces deux monoplaces sont assez proches en termes de performance sur des longs runs.
Alors, tu viens de l'évoquer, effectivement, Adrien, aux côtés de Sébastien Vettel avec sa Ferrari, l'homme qui domine le championnat du monde pour le moment, après sa victoire sur les terres de Lewis Hamilton, donc il y a deux semaines, sur les terres évidemment britanniques. Il a un total de 171 points, Vettel, 163 pour Lewis Hamilton. Et puis, Lucas, j'ai envie de te dire, est-ce que Valtteri Bottas, Adrien vient de l'évoquer, qui partira sur la première ligne avec la Mercedes aux côtés de Vettel, a les épaules assez solides pour relever le gant?
Normalement oui, en plus il vient d'être confirmé, donc il a moins de pression, Valtteri Bottas. Quand on a signé son contrat, normalement on a l'esprit un petit peu plus libre, et puis il sera scruté de toute façon, parce que il doit aussi, dans ce jeu d'équipier, aider Lewis Hamilton. Si Valtteri Bottas gagne, c'est bien pour lui, c'est bien pour Mercedes, mais c'est aussi bien pour Lewis Hamilton, parce qu'il enlèvera des points à Sébastien Vettel. Il est capable de le faire, Valtteri Bottas. Il avait pris un départ incroyable, on se rappelle, l'année dernière en Autriche, mais attention, parce que maintenant Ferrari semble avoir aussi l'avantage, en plus des lignes droites, en plus de la stratégie. Au départ, c'est des vraies balles maintenant, les Ferrari.
Ce sont des vraies balles, effectivement. Valtteri Bottas qui a concédé 204 millièmes exactement, 1-11-416 pour le pilote finlandais de Mercedes, contre les 1-11-212 signés par Vettel. On l'écoute au micro de Luca Vinois parler justement de cette force qui anime les Ferrari. Valtteri Bottas.
Malheureusement, les Ferrari étaient trop rapides. De mon côté, c'était plutôt un bon tour. Je pense que j'aurais pu être un dixième plus rapide, mais pas de dixième. Ils étaient plus forts. Nous devons réagir, parce que pour la première fois, ils ont fait la différence par rapport à nous dans les lignes droites. Leur moteur a tout simplement progressé.
Alors c'est vrai qu'il y a le moteur, hein, bien sûr, Adrien, on en parle beaucoup, mais il y a tout le reste aussi. Tu parlais de ce système de départ, parce que c'est assez complexe en Formule 1. On l'a dit, sur la deuxième ligne, il y aura l'autre Ferrari, celle de Kimi Raikkonen, une nouvelle fois, j'allais dire, un petit peu à l'ombre de son équipier. Bon, et on sait que fidèlement, il va tout faire pour servir Vettel. À ses côtés, il y a Verstappen. Adrien, on s'attendait peut-être à un poil mieux, puisque le vendredi, dans la canicule, elles étaient extrêmement rapides, ces Red Bull Renault.
Oui, mais apparemment, chez Mercedes et chez Ferrari, on commence à avoir une petite marge, en tout cas par rapport à Red Bull, sur ce genre de tracé, et on a fait clairement du sandbagging. On a caché notre jeu pendant les essais libres, et on probablement se concentrer sur autre chose, sur la course et sur des runs plus longs, des réglages de voiture un peu plus pointus, et voilà, on se retrouve maintenant avec un petit avantage. On parle chez Ferrari, enfin en tout cas Mercedes parle d'un avantage de 5 dixièmes pour Ferrari autour avec leur moteur. Je sais pas comment ils quantifient ça, parce qu'après c'est sur un circuit comme Hockenheim, tout est une question d'équilibre et de balance entre la charge aérodynamique qu'on met sur les voitures et la vitesse de pointe. C'est un circuit où il faut de la puissance, où il faut de l'allonge dans cette longue ligne droite, cette longue période de pleine charge à la fin du premier secteur, mais où il faut aussi de l'appui dans le dernier secteur. Donc c'est un équilibre. Je sais pas comment Mercedes arrive à quantifier ses 5 dixièmes, mais en tout cas ça les arrange bien ça paraît beaucoup. Ouais. Maintenant, le jeu va être pour Ferrari, pour Kimi Raikkonen, d'aller chercher Valtteri Bottas dès le départ. On l'a dit, hein, les Ferrari ont travaillé, la Formule 1 est un sport de détail, et ont travaillé sur ces départs, et ça fait quelques courses qu'ils arrivent à prendre l'avantage sur les Mercedes. Et on sait que ce circuit-là, la ligne intérieure est toujours un peu plus sale que la ligne extérieure. On y passe jamais pendant les essais, et c'est peut-être un avantage pour Kimi Raikkonen de s'élancer à gauche derrière Sébastien Vettel.
Allez, on va écouter maintenant le Hollandais volant. Vous voyez à qui je peux faire allusion. Il repeint une partie des tribunes en orange vif. Il a remporté un Grand Prix cette saison, c'était le Grand Prix d'Autriche, il n'y a pas si longtemps que ça. Et il part justement de ce manque de puissance au micro de Lucas Vinois, c'est bien sûr Max Verstappen.
C'était le maximum que nous pouvions faire. Je suis content de mon tour, je ne sais pas ce qu'il va se passer en course, mais je pense que nous serons plus proches de nos rivaux. Mais qu'est-ce que vous voulez espérer de plus? Quand il vous manque de la puissance, vous ne pouvez pas vous battre.
Et on ne peut pas se battre, et c'est pourtant Lucas ce qu'il va essayer de faire quand même. Hein. Verstappen, on le connaît. Alors, c'est vrai qu'il a eu un début de saison un peu erratique, on l'a calmé, il a fait l'objet de quelques réprimandes, mais c'est toujours un pur sang, on va dire ça comme ça.
Bah on peut compter sur lui pour tout donner, hein. Ça c'est clair qu'il en laisse jamais Max Verstappen, il est toujours là pour être à fond, mais il l'a bien résumé, hein. Aujourd'hui le châssis de la Red Bull, et ce n'est plus à démontrer, fonctionne très bien. Le problème c'est qu'il y a un net manque de puissance moteur, hein. Le groupe propulseur Renault n'est pas assez performant comparé à celui de Mercedes et de Ferrari. Donc oui, ce sera compliqué. Max Verstappen il fait le meilleur job possible, en fait il est quatrième, il est derrière. Il peut pas faire mieux. Alors après, en course, normalement le rythme de course est plus serré entre les trois top teams. Il va peut-être pouvoir tenter quelque chose, notamment s'il prend un bon départ, et puis au niveau de l'épingle on sait qu'il va prendre tous les risques, mais sans défaillance de Ferrari ou de Mercedes, gagner à la régulière c'est très compliqué, voire quasiment impossible.
Ouais, tu as raison, effectivement, il faudra des circonstances de course, et puis bon, cette petite ondée, ou cette grosse ondée d'ailleurs dont tu nous parlais pour 17h, elle peut avoir une demi-heure ou trois quarts d'heure d'avance.
Et Jean-Luc, pour être ouais, clair, dans les 5 dixièmes évoqués davantage pour Ferrari, on parle aussi de la qualification, hein. On parle d'un mode, comme on a pu parler dans le passé, d'un mode chez Mercedes. Là, apparemment, chez Ferrari, on arrive à vraiment pousser le moteur dans ses retranchements en qualif, et chez Red Bull, on a espoir de se rapprocher, que ça soit en termes d'équilibre de la monoplace et d'utilisation des pneumatiques en course, mais aussi grâce au moteur, grâce à ce mode qui va pas être utilisé pendant toute une course chez Ferrari et chez Mercedes.
Oui, tout à fait, tu as raison de le souligner. Puis on va pas être trop technique, hein. Il y a une histoire électrique qui a été soulevée par certains des concurrents. Vous savez que normalement c'est qu'une batterie, mais chez Ferrari on aurait trouvé le moyen d'avoir deux batteries qui fonctionneraient comme une. Enfin bref, là c'est, on entre vraiment dans le détail. En tout cas, ça n'est pas répréhensible, semble-t-il, puisqu'apparemment c'est admis et c'est connu. Mais bon, ça donnerait peut-être un petit avantage à la Scuderia, à Ferrari. En tout cas, c'est peut-être comme ça qu'on peut aussi expliquer ce regain de performance. Alors maintenant, si on va sur la quatrième ligne de la grille de départ, ben on est bien content, d'abord parce que c'est la quatrième force du plateau, là aussi, derrière évidemment les Ferrari, les Mercedes et les Red Bull Renault. Il s'agit de Haas à moteur Ferrari. Alors Adrien, Kevin Magnussen qui devance Romain Grosjean, mais les deux hommes assez proches quand même, et peut-être capables de tirer les marrons du feu.
Oui, peut-être capable de tirer les marrons du feu, mais eux aussi ont un moteur Ferrari, bénéficient peut-être de ce mode en qualif. Ils sont, en tout cas pour Kevin Magnussen, à une seconde seulement, entre guillemets, de Sébastien Vettel. C'est beaucoup, mais c'est peu. Ça voudrait dire qu'il y a, au point de vue châssis et aérodynamique, une seconde entre une Ferrari et une Haas, si on considère qu'ils ont le même moteur. Et puis, aller chercher Max Verstappen, ça sera compliqué. Il faudra aussi se défendre de la remontée de Lewis Hamilton et de Daniel Ricciardo, eux, avec le DRS, je pense, vont mettre quelques tours à arriver derrière Romain Grosjean, mais ils finiront par aller attaquer le Français.
Allez, justement, le Français, on va l'écouter au micro de Lucas Vinois parler de ses espoirs. Vous savez que pour le moment, il n'a marqué qu'à une reprise, mais il a marqué des gros points, Romain Grosjean. Ça a en partie rattrapé son début de saison extrêmement compliqué. C'était en Autriche, hein. Il a terminé quatrième au pied du podium. On va écouter quelles sont ses ambitions. C'est au micro de Lucas Vinois, Romain Grosjean.
La position, c'est qu'un Ricciardo et Hamilton n'ont pas pu faire la qualif comme ils le voulaient, mais c'est d'être le meilleur du reste, encore une fois, et d'être juste derrière les grosses équipes qui est super. On va profiter de ça. Demain, on devra avoir une bonne voiture en course, essayer d'aller marquer des gros points et de faire une bonne course d'équipe.
Bon, c'est pas mal, hein, Lucas, effectivement, d'avoir les deux As. Alors, on espère que, pas comme lors du dernier Grand Prix, je pense que les consignes ont été fermes, hein, du côté de l'équipe américaine. On espère que les deux pilotes vont pas se frictionner dans le premier tour.
Ouais, non, ça c'est sûr que c'était la mauvaise nouvelle du départ la semaine passée. Enfin, c'était en Angleterre. Romain Grosjean était un peu déçu, hein, quand même, hier après la qualification, puisqu'il s'est fait dominer par son coéquipier. Il a commis une petite erreur dans son tour de qualification, mais bon, il est quand même sixième. C'est aussi l'occasion encore de marquer des points et peut-être d'essayer de marquer le coup aussi en finissant devant Kevin Magnussen. On rappelle que Romain Grosjean a 12 points, Kevin Magnussen en a 39. Il en a trois fois plus quand même que le Français. français et c'est quand même beaucoup. On sait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de la part aussi de Romain Grosjean cette année, donc là il serait bien de passer devant Magnussen et de finir de faire une belle course, parce qu'on sait aussi que Günther Steiner a mis un peu de pression sur Romain Grosjean en lui disant que la décision quant à la saison prochaine, voilà, il y aura deux grands prix, celui-ci, celui à Budapest, et on réfléchira sérieusement pendant l'été, pendant la coupure estivale, à ce qu'on fait pour l'année prochaine. Romain Grosjean a un peu de pression, il doit bien faire ici et la semaine prochaine à Budapest.
Eh oui, c'est chaud bouillant. Alors il y a une équipe qui s'est pas mal débrouillée, c'est une équipe française évidemment, l'équipe Renault, qui figure d'ailleurs pour le moment, qui figure au quatrième rang au classement général provisoire du championnat avec 70 points. C'est vrai qu'il y a une belle bataille avec Haas, on vient d'en parler, qui est derrière avec 51 points, et puis Force India 49 et même McLaren 48. On va tout de suite écouter au micro de Lucas, toujours, et on en parlera avec Adrien dans un instant, les performances de la Renault de Nico Hülkenberg, qui partira lui sur la 7e place de cette grille de départ en Allemagne.
J'aurais aimé être plus proche, un tout petit peu plus près des top teams. Mais bon, je suis juste derrière Romain Grosjean. Je suis content de mon tour et de notre progression en qualification. C'est super de voir le public nous encourager autant. Ces quatre grandes tribunes qui me rendent très fier en tant que pilote allemand. C'était vraiment très agréable.
Adrien, un beau tir groupé de l'équipe Renault qui se bat, je viens de le dire, pour la quatrième place, même si il va falloir la défendre, parce que effectivement l'équipe française, elle, on va dire, a marqué des gros points, puis elle a deux pilotes qui se poussent, et a priori, sauf quand elle a aussi le Sainz, malheureusement n'a pas vu le drapeau d'arriver en Angleterre suite à cet accrochage avec Grosjean, mais bon, on espère marquer des gros points, Adrien.
Oui, et puis il y a le numéro 27, Nico Hülkenberg à Hockenheim. À Hockenheim, c'est normal d'être en bonne position, et puis en 7e position, donc il y a beaucoup de 7. Pour être plus sérieux, il connaît super bien ce circuit. En plus, Nico Hülkenberg, il y a roulé dans toutes les catégories, en Formule BMW, en Formule 3, en GP2, il a toujours été performant, il est pas loin de chez lui. Et pareil, c'est un Allemand, il va avoir à cœur de faire un très beau Grand Prix. Si on en revient aux performances en qualification des Haas et des Renault, donc la Haas, c'est la première cible pour la Renault de Nico Hülkenberg. Il y a 6 millièmes d'écart entre Nico Hülkenberg et Romain Grosjean, et un peu plus de 2 dixièmes entre Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen. Quand on sait que la Ferrari a un mode et un ajout de performance en qualification, ça veut dire que la Renault est très performante en châssis et en course. Donc ça va être une cible assez réaliste pour Carlos Sainz et Nico Hülkenberg. Et voilà, avec Daniel Ricciardo derrière, Lewis Hamilton derrière aussi, on peut aller chercher des gros points pour ces deux hommes.
Allez, le dernier pilote qu'on va vous faire écouter, c'est le franco-monégasque Charles Leclerc, qui s'est magnifiquement qualifié 8e avec sa modeste Sauber. Encore qu'avec le moteur Ferrari, il va peut-être falloir arrêter de dire qu'elle est modeste, cette Sauber. Elle est performante. En tout cas, Charles Leclerc au micro de Lucas Vinoy est ravi évidemment des progrès réalisés par son équipe suisse, managée par Fred Vasseur. On l'écoute.
Confiant, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça s'est super bien passé, et voilà, c'est cool de voir qu'on fait des progrès week-end après week-end. Comme à Silverstone, là, on n'a pas le choix de choisir les pneus avec lesquels on commencera la course, donc ça va être compliqué au début, et faudra essayer de garder ces pneus, enfin les ultra soft, en vie le plus longtemps possible, et ça va pas être facile, mais on va essayer de faire mieux.
Alors Lucas, je sais que les pilotes de Formule 1 détestent ça, même si là aussi on parle des rétros, notamment ceux des Ferrari, enfin accrochés ou pas au halo. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a au moins deux hommes qui vont remonter très fort. C'est Hamilton, qui devrait partir 14e sur la grille, et Ricciardo, qui partiront du fond de grille. Lucas, ça c'est une garantie de toute manière d'avoir une course qui va être spectaculaire.
Forcément, Lewis Hamilton qui va tout faire pour remonter. Alors il l'a dit, il est un peu moins confiant qu'à Silverstone, parce qu'à Silverstone il était remonté après son accrochage avec Raikkonen au premier tour, mais la piste est très large. À Silverstone elle l'est moins. Ici à Hockenheim par exemple, le dernier secteur c'est quasiment impossible de doubler, il y a vraiment pas beaucoup de place. Mais bon, on peut compter sur Lewis Hamilton qui va tout tenter, et puis de toute façon au classement il faut qu'il perde le moins de points possible. Après, Ricciardo ne partira finalement pas 20e mais 19e, parce que Pierre Gasly subit une pénalité moteur. Il change des éléments moteurs sur son moteur Honda. Donc voilà, Ricciardo, on le sait, c'est peut-être le pilote qui dépasse le mieux ici sur le plateau de la Formule 1. Donc oui, ces deux hommes vont remonter, et forcément ça va nous garantir beaucoup de spectacles en piste.
Bon, bah écoute, ça va être pas mal. On va voir le reste de la grille, notamment avec les Français dans un instant, dans le fameux Frenchies Corner que vous attendez tous avec impatience dans cette émission Motors. On est avec Adrien Tambay, avec Lucas Vinoy, et on vous parle de ce Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 que vous allez vivre en direct. Le départ 15h10 tout à l'heure sur l'antenne de RMC. Vous restez avec nous.
RMC jusqu'à 14h. Motors, Jean Lecroix.
Eh oui, et vous avez compris pourquoi peut-être on utilise effectivement cette musique, c'est parce que le Grand Prix d'Allemagne, il est en danger, soyons clairs, il se tient à Hockenheim. Il ne s'était pas tenu depuis 2 ans et dans ce théâtre magnifique, hein, ce grand. D'ailleurs, tu as découvert ça, Lucas, j'imagine impressionné avec cette forêt. Et tu sais qu'avant, le circuit partait très loin là-bas. Les pilotes partaient tout seuls pour 2 longues lignes droites avec un virage au bout. C'était quelque chose de très impressionnant.
Oui, bah c'est vrai que oui, on n'est plus dans cette configuration là, hein. Maintenant on a plus de ligne droite, hein. On tourne tout de suite à droite avec le virage numéro 2, alors qu'avant on partait dans la forêt. C'est un circuit qui, dans son ancienne configuration, ressemble étrangement à celui des 24 heures du Mans, dans le profil en tout cas, quand on le regarde de haut du ciel, c'est assez impressionnant. Mais bon, il y a toujours cette partie incroyable avec ce stadium, le public, les clameurs du public. Hier c'était incroyable quand Sébastien Vettel a passé la ligne, la foule s'est levée tel un l'homme pour féliciter son pilote qui ne signait que la deuxième pole de sa carrière. Ici, ça peut paraître étonnant quand on sait que Sébastien Vettel a 56 poles, mais oui, et puis il y a une ambiance forcément particulière parce que c'est la dernière. Tout le monde veut être là, il y a 130 000 personnes qui vont vibrer pour Mercedes et bien évidemment Sébastien Vettel et Nico Hülkenberg.
Ouais, cette 55e pole de Sébastien Vettel avec son numéro 5, 5e pole de la saison. On va l'écouter justement, Lucas, puisque tu l'as rencontré pour parler précisément d'Hockenheim et de la popularité de la Formule 1 en Allemagne. Sébastien Vettel.
En Allemagne, je pense que Michael Schumacher est celui qui a créé le boom. Et depuis, nous avons eu beaucoup de très bons pilotes. Il y a même eu un moment où nous étions 7 pilotes allemands sur la grille. Maintenant, il n'y a plus que Nico Hülkenberg et moi-même. Mais c'est vrai qu'en général, les Allemands ont un peu du mal à être excités et enthousiastes. Pour les autres pays, c'est un peu plus facile de l'être. J'espère que le fait d'avoir été éliminé prématurément de la Coupe du Monde de football cette année a permis aux gens d'économiser un peu d'argent des barbecues et leur permettre de venir au camping ce week-end.
Il est un peu cynique, mais il est rigolo, hein, Adrien, parce que Seb Vettel, c'est quelqu'un qui a une personnalité un petit peu secrète, hein. Il se livre pas autant qu'Hamilton, en tout cas sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'aime bien plutôt cet humour, en disant comme les Allemands étaient pas en Coupe du Monde, ils vont peut-être venir à Hockenheim.
Il a beaucoup d'humour, Sébastien, ouais. Vettel, et c'est vraiment quelqu'un de passionné par le sport automobile qu'on sent concerné, même s'il le tourne de cette façon-là. Moi, je me souviens d'une année où je suis venu à Monaco rendre visite au Grand Prix de Formule 1 et j'avais ma saison de DTM. Donc Sébastien Vettel est allemand, bien sûr, et on pourrait croire qu'il ne suit pas les autres catégories. Il est pilote de Formule 1, il était en plein dans son Grand Prix. Il est venu me dire bonjour et m'a félicité pour le début de saison. C'est quelqu'un qui regarde toutes les autres catégories et qui est passionné vraiment par son sport et qui, je pense, est un peu triste de la tournure que ça prend. Et quand j'entends ses propos et quand je vois cette situation un peu en Allemagne, j'ai un peu l'impression d'être il y a quelques années en France quand on commençait à ne plus avoir de pilotes français et qu'on a eu cette période de disette et plus de Grand Prix en France. Donc je suis persuadé qu'un jour ou l'autre ça reviendra, même si le Grand Prix d'Allemagne venait à disparaître pour un petit moment.
Bah, espérons-le tout cœur. Allez, on va écouter. Lucas Vinoy a tendu le micro également à Esteban Ocon à propos d'Hockenheim, justement. Hockenheim que Esteban connaît bien et qu'il apprécie comme beaucoup de pilotes, d'ailleurs. On l'écoute.
Sur ce circuit, ça fait pas mal d'années que j'entends ça. Il revient toujours. Certes, il a disparu un petit peu ces dernières années. Moi, c'est un peu ma base parce que je roulais en DTM à l'époque, donc pour Mercedes, et on testait tout le temps ici. En F3, pareil. Enfin, c'est un circuit que je connais par cœur. Après, s'il y a un autre endroit en Allemagne où aller, faut me dire, mais je pense que le sport auto, c'est important en Allemagne. On aime bien venir ici, et les fans, ils sont top ici, donc c'est important. Après, si on me dit roule sur Nordschleife, ce serait sympa, quoi.
Alors la Nordschleife, c'est le Nürburgring, c'est la grande course. Lucas, je pense pas que ce soit dans l'ambiance de revenir sur cet immense circuit aussi allemand, le Nürburgring, puisqu'on sait qu'il y a une partie beaucoup plus courte qui a été maintenant utilisée, et ça c'était depuis l'accident terrible de Niki Lauda en 1976, donc ça m'étonnerait. Je comprends, là aussi, ça fait plaisir, moi ça me fait plaisir, Lucas, d'entendre un jeune pilote comme Esteban Ocon et faire référence à la Nordschleife.
Ouais, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas réaliste. Hein. On sait que les normes sécuritaires ne permettront pas d'aller rouler là-bas, du moins en Formule 1. Mais ouais. Non, mais le souci, il est économique de toute façon. C'est le modèle de la Formule 1 qui veut ça. Bernie Ecclestone a rendu la Formule 1 extrêmement rentable, mais c'est au détriment des circuits historiques, qui sont des circuits privés où on ne gagne de l'argent qu'avec la billetterie, donc avec les spectateurs. En Allemagne, il y avait un petit peu moins de monde pour les grands prix de Formule 1 ces dernières années, que ce soit au Nürburgring ou que ce soit à Hockenheim, et le prix d'entrée au calendrier est tellement élevé que vous ne pouvez pas retomber sur vos pattes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas organiser un grand prix et être rentable sur des circuits historiques. Donc voilà, il y a l'Azerbaïdjan, il y a le Mexique qui sont rentrés au calendrier, mais eux ont une perspective plus large, faire venir des touristes, faire découvrir le pays, le faire découvrir sur la planète. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, il n'y a pas de financement, donc forcément on est un peu contraint de quitter l'Allemagne pour un temps. Ça reviendra, mais espérons que ce soit pas aussi long que le Grand Prix de France.
Absolument, on croise les doigts en tout cas pour que nos amis allemands et nous-mêmes gardions au calendrier un Grand Prix d'Allemagne. Voilà pour cette page qui était importante. On va maintenant en ouvrir une autre que vous attendez, évidemment. C'est le fameux French's Corner.
RMC Motors, le French's Corner.
Ah ben c'est d'actualité après la victoire en Coupe du Monde de foot, hein, on peut pas y couper dans le bon sens du terme. Adrien, alors on vous a parlé de Romain Grosjean qui est le mieux placé de loin des pilotes français, il est sixième sur la grille de départ, troisième ligne donc aux côtés de son équipier Magnussen. On vous a parlé, et je vous la fais à chaque fois, de Charles Leclerc qui est huitième sur la grille avec la Sauber même s'il est monégasque. Du côté des autres Français, c'est un peu moins bien évidemment, puisque Esteban Ocon devrait partir, alors ça devrait être quinzième si je ne m'abuse, Lucas, si tu as les derniers éléments.
Ouais, c'est ça, 15e Esteban. Ouais.
Et puis Pierre Gasly, on l'a appris, tu nous l'as confirmé, malheureusement, il a changé des éléments mécaniques, tout comme Ricardo, il partira encore plus loin que Ricardo, 19e et Pierre 20e. Alors, on va d'abord écouter sur un autre point qui est en discussion actuellement, c'est le fameux barème de points. Vous savez que pour le moment, les 10 premiers pilotes d'un Grand Prix marquent des points, 25, 18, 15, 12, etc. Eh bien, on en débat et on va écouter l'avis d'Esteban Ocon au micro de Lucas Vinois.
Je pense que le barème de points est super intéressant en ce moment. De rentrer dans le top 10, c'est compliqué. Voilà, quand on rentre, on a le droit d'avoir une récompense et je pense que c'est top. Je vois au MotoGP comment ça marche un peu comme ça. Il y a des points distribués plus loin dans la grille et je pense que ce serait pas une bonne chose.
Alors, le MotoGP, effectivement, il faut rappeler, Adrien, que 15 pilotes marquent des points, mais ils sont 24 au départ, alors qu'en Formule 1, il n'y a que 20 voitures. Et puis, longtemps, en Formule 1, il y avait 26 monoplaces, lapsus révélateur. Il n'y en a plus que 20 aujourd'hui, donc la moitié des pilotes marquent des points. Ton avis de pilote, Adrien, est-ce que tu penses que le schéma actuel est le bon, avec un point pour le 10e pilote classé?
Moi, je pense qu'on ferait mieux de trouver des solutions pour rapprocher les voitures les unes des autres et avoir une grille plus serrée et puis laisser les points comme ça, qu'on donne plus de chances.
C'est pas le principal sujet.
Voilà, c'est pas le principal sujet. C'est anecdotique, mais après, c'est sûr que les écuries qui se battent pour les accessites, enfin pour les places après la 10e place, aimeraient bien avoir plus de challenge et quand ils sont 15e, les pilotes. Trouver une motivation pour aller doubler le 14e, mais honnêtement le souci n'est pas là. Il faudrait arriver à rapprocher cette grille ou en tout cas à raccourcir les écarts.
Bien sûr, moi je pense que tu as totalement raison, c'est pas le problème fondamental. Pourquoi modifier ce qui fonctionne parfaitement? Alors Lucas, évidemment, tu n'as pas connu et pour cause l'ancien système. Tu sais que pendant longtemps en Formule 1, seuls les 6 premiers marquaient des points. Autant dire qu'effectivement, ces points avaient une importance colossale. Le premier n'en marquait que 9 d'ailleurs, et le deuxième 6, etc. Et puis après on a porté les points du premier à 10. Avant d'en arriver au système actuel, est-ce que tu penses que ça fonctionne bien, Lucas, de ton avis, et si tu peux comparer avec d'autres sports, le fait d'attribuer des points à la moitié des pilotes qui sont sur la grille de départ?
Moi, je suis complètement d'accord avec Adrien. Je pense que c'est pas du tout le débat. C'est même un faux débat, hein, puisque c'est très bien comme ça. Alors, ça correspond, faut le comprendre aussi, de la part de Liberty Media, ça correspond à une vision plus américaine des choses, puisqu'en IndyCar, tout le monde marque des points.
On a NASCAR, des points à NASCAR, tout le monde. Pas en IndyCar.
En IndyCar aussi. En IndyCar, si, puisque au-delà de la 25e place, c'est 5 points. Et il n'y a pas besoin de terminer la course. Donc, on a regardé ça sur le site officiel de l'IndyCar. Mais, peu importe, de toute façon, ce n'est pas le débat en Formule 1. Il faut laisser la chance aux 10 premiers de marquer des points. Il faut que ça reste exceptionnel. Comme le dit Fernando Alonso, marquer ses premiers points en Formule 1, il faut que ça reste quelque chose d'incroyable. Il faut que ça reste une performance. Et le système d'attribution des points est bien comme il l'est aujourd'hui. Et on ferait mieux de trouver des solutions pour réduire l'appui aérodynamique des monoplaces pour qu'elles puissent se suivre et qu'il y ait plus de batailles en plisse plutôt que changer le barème de points.
Alors on peut écouter justement Charles Leclerc sur cette question, Lucas l'a rencontré également, qui a un avis particulier lui en tant que jeune pilote, et vous allez voir que la réflexion l'a animé également. Charles Leclerc.
Dans un premier temps, je me suis dit bon, ça c'est top, parce que surtout pour nous qui sommes derrière, on peut vraiment se battre avec le coéquipier, et si on passe de 15e à 14e, ça fait une vraie différence au niveau du championnat. Mais après, c'est vrai, j'ai lu un interview de Fernando qui disait quand on rentre dans le top 10 avec une voiture qui est un peu moins bonne, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on marque quelques points qui sont pas donnés à tout le monde. Et plus j'y pense, plus je suis d'accord avec lui. C'est vrai que je pense qu'il faudrait que ça reste pour le top 10, c'est mieux, et on sera plus content quand on aura un point que s'il y a tout le monde qui en a.
Eh ben voilà, et je voilà. Crois qu'il a bien, il a très très bien résumé effectivement Charles Leclerc l'opinion générale des pilotes. Penchons-nous sur d'autres problèmes beaucoup plus évidents et beaucoup plus cruciaux pour la Formule 1. Alors quelques nouvelles, on l'a évoqué rapidement Adrien, c'est la reconduction, on va dire, des contrats. Alors pour un an du côté effectivement de Bottas, on s'y attendait un petit peu aussi, hein, il faut être bien clair. Et 2 ans. Pour Lewis Hamilton, là aussi, c'était un peu un secret de Polichinelle, Adrien. On stabilise en quelque sorte. En fait, le vrai baquet à pourvoir, c'est éventuellement le deuxième de chez Ferrari.
Le deuxième le deuxième de chez Ferrari, peut-être chez McLaren aussi. Quid de Fernando Alonso, quid de Stoffel Vandoorne. Mais oui, c'est vrai que pour Mercedes, c'était important de garder Lewis Hamilton. Mais on n'était pas sûr non plus, hein, que Lewis Hamilton veuille continuer tout simplement. Hein. On sait que c'est une superstar et que il aurait pu prendre une décision complètement différente, imprévisible. En tout cas, non, il est motivé pour continuer, et chez Mercedes on a fait le choix de la continuité avec Bottas aussi, qui fait un job de un peu de second couteau, hein, malheureusement. Mm-hmm. mais qui le fait bien, donc voilà.
Il vient prendre des points effectivement aux autres, et ce sera peut-être le cas pour ce Grand Prix d'Allemagne, puisqu'on rappelle que Valtteri Bottas partira sur la première ligne avec le deuxième temps. Lucas, quels sont les bruits? C'est la silly season en Formule 1 dans le paddock. On a parlé, on vient de l'évoquer avec Adrien, de la non reconduction potentielle du contrat d'Alonso, qui pourrait aller voir ailleurs ce qui s'y passe, hein, notamment du côté de l'endurance. On rappelle qu'il a gagné Le Mans et qu'il est intéressé par Indianapolis, donc ça libérerait effectivement un gros baquet chez McLaren. Et puis j'ai l'impression que, oui, vu le visage de Brown, hein, le responsable de chez McLaren, là, apparemment, il y a des soucis pour le moment.
Oui, alors, il y a deux grosses inconnues. On discutait avec Adrien, c'est que fera Kimi Raikkonen si Charles Leclerc débarque chez Ferrari? Est-ce qu'il voudra continuer sa carrière en Formule 1? Et que va faire Fernando Alonso? Pour l'instant, on ne sait pas si ces deux pilotes vont rester en Formule 1 l'année prochaine. On parle aussi d'Esteban Ocon qui pourrait prendre la place de Carlos Sainz chez Renault, puisqu'on sait que l'écurie Force India est à vendre, que Stroll voudrait la racheter, et bien évidemment s'il la rachète, il viendra dans un des baquets de la Force India. Donc pour l'instant, il y a plusieurs inconnus, beaucoup de bruit qui court. Est-ce que Van Dorn va terminer la saison? Ça, ce n'est pas sûr non plus, il est en grande difficulté. On parle de Lando Norris peut-être pour le remplacer lors de la deuxième partie de saison. Voilà, il y a plein d'inconnus, mais en tout cas, les clés des transferts se jouent avec Raikkonen et Fernando Alonso, ça c'est certain.
Et Fernando Alonso et Adrien, on terminera cette partie sur la F1, mais bien sûr tu vas rester avec moi, puisque ensuite dans Radio Paddock on a plusieurs sujets à évoquer. On peut quand même parler de Daniel Ricciardo. Alors là aussi, c'est vrai que la reconduction de son contrat chez Red Bull Renault a priori ne tient qu'à des détails, c'est ce qu'il dit lui-même, c'est ce que dit Christian Horner, mais ça n'est pas fait.
Ouais, c'est pas fait, mais je pense que ça y est, hein, c'est en bonne direction pour lui. Je pense qu'on attendait la confirmation de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas. Je pense que lui, il l'a eu il y a quelques semaines déjà, même si ça a été officiel cette semaine. Et aussi, je pense que chez Ferrari, on lui a dit, même s'il y a eu des discussions pendant la première partie de saison, qu'on n'aurait pas besoin de lui, parce que si on ne garde pas Raikkonen, ça sera probablement quelqu'un d'autre. Qui est monégasque. mais ouais, donc dans tous les cas, pour Daniel Ricciardo, même s'il y a eu des discussions aussi avec McLaren, je pense que la décision la plus sage et la plus cohérente pour lui, pour son futur, il a toujours fait partie du Red Bull Junior Team, c'est de rester avec Red Bull et espérer que ce moteur Honda fonctionne l'année prochaine.
Bah bien sûr, puis il parvient quand même à gagner des grands prix, hein, Daniel Ricciardo, qui est quatrième au classement général provisoire du championnat avec 106 points, pas très loin de Raikkonen, on en parlait, à 10 points seulement, avec une superbe victoire à Monaco, deux victoires cette saison. Dernière petite question, Lucas, puis je te laisse après courir dans la forêt d'Hockenheim pour nous rapporter tous les dernières rumeurs et les dernières infos avant le départ du grand prix. Quel temps fait-il et quel temps va-t-il faire? Est-ce que tu as des news un peu fraîches?
Il fait beau pour l'instant. Alors le ciel est chargé, mais il fait beau. Alors après, ça dépend du sens du vent. Le vent tourne beaucoup. Normalement, la météo de la FIA nous annonce qu'il ne pleuvra pas pendant le Grand Prix. Seulement 40% de chance et qu'il devrait y avoir un gros orage. Malheureusement, après l'abaissement du drapeau à damier, donc on se dirige vers une course sur le sec, mais avec quand même beaucoup de spectacle puisque Hamilton et Ricciardo partent derrière.
Absolument, merci beaucoup Lucas, on se retrouve tout à l'heure à partir de 15h sur l'antenne de AMC bien sûr pour vivre ensemble ce 11e Grand Prix de la saison. Adrien, je te garde avec moi dans la dernière partie de Motors, dans un instant ce sera Radio Paddock et vous restez bien évidemment avec nous sur AMC.
RMC jusqu'à 14h, Motors, Jean-Luc Roy.
Eh oui, vous êtes bien dans Motors sur RMC avec Nina Hagen. Voilà, vous saurez tout puisqu'on est dans l'ambiance du Grand Prix d'Allemagne. On y reviendra dans un instant. On va tout de suite aborder Radio Paddock et j'ai le plaisir d'accueillir Jordan Olivier. Salut Jordan.
RMC Motors.
World Champion. Oh my God. I can't believe it. Thank you so much, guys.
Radio Paddock.
Le voilà, Jordan Olivier. Après le jingle Radio Paddock. Salut Jordan.
Salut Jean-Luc. Salut à tous.
Alors, plusieurs thèmes, on en a quatre, hein, je crois, dans ce Radio Paddock qui est bien fourni. Et on commence par le MotoGP.
Effectivement, on va parler de Dani Pedrosa qui prendra sa retraite à la fin de la saison. Le pilote espagnol l'a annoncé lors d'une conférence de presse en marge du Grand Prix d'Allemagne. Alors, Dani Pedrosa, c'est 3 titres de champion du monde. Un en 125 cm3 en 2003, deux en 250 cm3 en 2004 et en 2005. Et cette saison, il pointe à une décevante 12e place après 9 Grands Prix. Alors messieurs, peut-on déjà établir un bilan de la carrière de Dani Pedrosa ?
Écoute, je commencerai par te répondre que c'est malheureusement un champion sans titre, en tout cas en catégorie supérieure, c'est-à-dire en MotoGP. Tu viens de le rappeler, Jordan, 3 titres de champion du monde quand même. Alors, je me suis un peu penché sur mes tablettes là, et j'ai vu, et ça c'est exceptionnel, Dani Pedrosa, il a remporté au moins un Grand Prix en 16 saisons de MotoGP ou en 500, ce qui est absolument incroyable, pendant des saisons consécutives, successives. C'est, il y a que Giacomo Agostini qui a fait quasiment aussi bien. Donc ça c'est fantastique. Seul Rossi a connu plus de podiums en MotoGP que Pedrosa. Il a 54 victoires en Grand Prix et il est au même niveau que Michael Doohan. Alors j'ai envie de te demander, Adrien, malgré tous ces résultats, évidemment il lui manque le titre suprême en MotoGP, mais est-ce qu'il n'est pas sous-estimé? Puis c'est aussi un garçon qui a une personnalité un petit peu discrète, hein, Pedrosa, il n'est pas très flamboyant.
Moi, c'est sûr que bon, je suis de loin le MotoGP, mais je suis pas un spécialiste. Mais Dani Pedrosa est un grand champion. Alors même si les résultats ne parlent pas pour lui en termes de championnat du monde gagné dans la catégorie reine, ça reste un très grand pilote et il a toujours été aux avant-postes. Alors cette saison, c'est un peu plus difficile que les autres. Enfin, ça fait quelques années. Il est petit par la taille. Il est toujours tout petit, voilà, oui, tout vraiment léger. Tout petit, ouais. Tout léger. Donc il a eu.
Je crois qu'il pèse 48 kilos.
Voilà, c'est j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est peut-être un peu plus dur dans la catégorie reine avec ses grosses motos que dans les catégories précédentes, dans 125 et en 250. Voilà, il a été performant sur certains circuits, un peu plus en difficulté sur d'autres, mais il a toujours été là quelque part pour aider aussi son coéquipier.
Jean-Luc, Dani Pedrosa, c'est 31 ouais. victoires en MotoGP, mais seulement 6 depuis 2014. C'est relativement ouais, c'est peu quand même.
C'est vrai, de toute façon, bah, il est tombé sur un phénomène, hein. Et là aussi, à chaque fois, il faut le dire, tu sais, à la grande époque, ceux qui tombaient sur Ayrton Senna, on en connaît un paquet qui étaient pourtant des pilotes extrêmement rapides et qui ont arrêté là leur carrière, tellement Ayrton a été impressionnant et Michael Schumacher, c'était pareil. Alors, pour compléter ce que tu disais, Jordan, j'ai noté qu'il a marqué 4086 points au total. Tu te rends compte, c'est le deuxième derrière Rossi qui en a marqué 5974. Donc, dans l'histoire des Grands Prix moto, c'est le deuxième pilote à avoir marqué le plus de points. Il a pris 285 départs en Grand Prix. C'est le troisième derrière Rossi, 373, et Capirossi, 328. Il a totalisé 153 podiums. Alors c'est vrai que tout ça, bon, ça fait beaucoup de chiffres, hein, mais c'est le troisième de l'histoire. Et donc 112 podiums en MotoGP. Et là aussi, il est deuxième derrière Rossi. Alors si on rajoute tout ça, Adrien, effectivement, on a affaire à un monument. Mais peut-être qu'il a manqué, allez, un poil de panache et un poil de réussite, on va dire ça comme ça.
Oui, et puis toujours face à des coéquipiers d'une grande qualité et voilà, mais après c'est le sport de haut niveau, peut-être que cette catégorie reine ne lui convenait pas à 100% comme le 125 et le 250 lui convenaient.
Ouais, c'est clair. Allez, voilà pour Dani Pedrosa qu'on va admirer encore jusqu'à la fin de la saison. Alors, il aura certainement sur certains tracés qui lui conviennent bien quelques fulgurances, mais c'est vrai que pour le moment le résultat provisoire au championnat du monde est pas de ce niveau. Alors on va changer complètement de catégorie, c'est le cas de le dire, Jordan, maintenant.
Effectivement, avec le 14 juillet dernier, jour de fête nationale, Jean-Éric Vergne est devenu champion du monde de Formule 1 à l'issue de la première des deux courses courues à New York. Le Parisien a su rebondir après plusieurs saisons assez compliquées en Formule 1, il faut bien le dire. Alors la Formule E gagne de plus en plus en crédibilité, on a l'impression depuis plusieurs années. Est-ce que ce titre, finalement, est une vraie belle performance réalisée par Jean-Éric Vergne?
Alors déjà, pour répondre à ta question, et juste une petite précision, ça n'est pas un titre de champion du monde. Hein. Là, je suis désolé, mais ça n'est pas un championnat du monde. C'est une série bon, qui est tout à fait respectable, mais la FIA n'a pas encore décidé de lui donner le qualificatif de championnat du monde. En revanche, ça n'enlève rien au mérite de Jean-Éric Vergne, qui, comme tu le soulignais il y a un instant, effectivement, a connu 4 saisons de Formule 1 chez Toro Rosso. Là aussi, bon, il n'a pas pu franchir l'échelon supplémentaire. C'est un pilote qu'on connaît depuis longtemps, qui avait remporté le championnat britannique de Formule 3. C'est un pilote solide, Adrien, mais qui a eu un petit peu de mal à rebondir, on va dire, après la F1, puisqu'il était longtemps, il travaillait pour Ferrari, mais dans l'ombre un petit peu, hein, Adrien.
Ouais, c'est compliqué pour moi de juger. On était coéquipiers, ouais. On a commencé le kart ensemble à 10 ans, donc vous voyez, en minime, on faisait les championnats de France ensemble. Mais c'est sûr que, oui, Jean-Éric a eu des hauts et des bas dans sa carrière, des moments très difficiles quand il a perdu son volant chez Toro Rosso. Et maintenant, c'est bien qu'il rebondisse dans ce championnat, mais qui pour moi n'est pas encore un championnat de sport automobile. Désolé d'être aussi
catégorique,
cru,
bah non,
catégorique. Pour, c'est peut-être un sport si on veut l'appeler ça comme ça, mais pour l'instant la technologie pour moi n'est pas à la hauteur du sport automobile.
Adrien, justement, qu'est-ce qui manque à ce sport pour devenir un sport automobile à part entière selon toi?
Des années de développement. Je ne doute pas qu'un jour ces monoplaces électriques auront les performances d'une Formule 1 éventuellement, mais aujourd'hui ça va pas assez vite pour que ça ait une crédibilité.
Voilà, c'est très lourd et ça n'avance pas.
Enfin, oui, ça prend 160 en course et c'est pas pour ça que moi j'ai fait ce sport-là dans ma vie.
Quand vous en parlez, on a l'impression que c'est un titre au rabais, messieurs. C'est un titre au rabais?
Non, jamais.
Non, parce que dans n'importe quelle catégorie, même en Twingo Cup, ça serait compliqué d'aller gagner. Il y a toujours de la concurrence, il y a toujours plein de pilotes, donc ça n'enlève rien à la performance de Jean-Éric. Et il y a plein de bon pilote dans ce championnat. Maintenant, c'est assez triste de voir que les pilotes sont obligés d'aller rouler comme ça dans des voitures peu performantes et qu'il n'y a pas assez de place en Formule 1 ou dans des catégories un peu plus de...
Ouais. Et il y a pour répondre à ta question, simplement nous ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas de performance pour le moment. Tu vois, ces monoplaces sont très lourdes et comme vient de le dire Adrien, ne sont pas très rapides. C'est pour ça qu'on les fait tourner sur des circuits en ville très petits. Si tu les mets sur un vrai circuit de Formule 1 par exemple, tu vas voir que ça n'avance pas. Donc évidemment, on a bien entretenu, il y a beaucoup de com autour de tout ça. Mais encore une fois, ça n'est pas un titre au rabais, ça n'est jamais un titre au rabais. Bravo à Jeff, c'est comme ça qu'on le surnomme. Jean-Éric Vergne, mais je crois qu'il faut comparer ce qui est comparable. Puis tu vois, la communication est tellement bien faite et je t'en veux pas. Hein. C'est pas un titre de champion du monde. Je suis désolé. Peut-être un jour la FIA décidera que ça sera un. Voilà. Allez, on va passer à un vrai championnat du monde, celui des rallyes, si tu veux bien, Jordan.
Effectivement, avec Thierry Neuville qui est en tête du championnat du monde WRC, le Belge a pris le pouvoir lors du rallye du Portugal en mai. Et depuis, il a signé un nouveau succès en Italie. Le Français Sébastien Ogier, quant à lui, occupe la deuxième place au général. Alors, messieurs, doit-on s'inquiéter pour le Français qui occupe cette deuxième place au classement général?
Alors je vais être provoque comme d'habitude, puisque effectivement Ogier est content. Pourquoi? Parce que Neuville a 27 points d'avance et jusque là, pour les 5 titres remportés par Sébastien Ogier, il était en tête du championnat du monde à ce moment de la saison, Adrien. Donc c'est lui qui balayait la piste, tu me vois venir. Et en Finlande, celui qui balaye la piste, ça va être Neuville.
Oui, c'est sûr que la situation est un peu renversée cette année, mais maintenant il va falloir prouver pour Seb Ogier que c'est un réel handicap et Thierry Neuville est très fort. Peut-être qu'il a atteint maintenant une maturité avec moins d'erreurs cette saison. On sait qu'il est très 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 rapide, il a une voiture qui fonctionne bien et quelque part c'est bien pour le championnat du monde des rallyes, même si on préfère que ça soit le Français qui aille remporter ce titre. C'est bien pour la compétitivité de cette discipline.
On le rappelle, Thierry Neuville 149 oui. points, Sébastien Ogier 122 points, mais on sent quand même depuis quelques semaines un peu de lassitude chez Sébastien Ogier. Il évoque également la retraite. Est-ce que ça sentirait pas la fin de carrière pour Sébastien Ogier?
Ah, seul lui le sait. Tu sais, il s'est posé la question lorsqu'il a perdu le volant chez Volkswagen, puisque Volkswagen s'est arrêté. Il est reparti dans un nouveau challenge extrêmement difficile avec l'équipe privée Ford. Il a remporté le titre, il se bat à nouveau. Il a dit que sa plus difficile saison, c'était certainement la dernière, donc son 5e titre de champion du monde. Là, il est toujours en lice et plus que jamais pour remporter un 6e de rang. Tu as raison, Jordan, là, c'est seul lui peut savoir, mais je crois qu'effectivement, Adrien, il y a les deux cas. Hein. Soit il ne décroche pas le titre, et il aura envie d'aller le chercher quand même la saison prochaine, soit il le décroche et avec 6 titres d'affilée, Adrien, il pourra se dire que le boulot est fait.
Bon, non, je pense qu'il continuera dans tous les cas, ouais.
Tu le sens bien?
Ouais.
Bon, eh ben c'est une bonne nouvelle. En tout cas, il reste 6 rallyes, hein, Jordan, c'est ça, au championnat du monde. Et pour dire, le prochain, c'est la Finlande, qui est un rallye extrêmement. Pendant longtemps, on l'appelait le Grand Prix dans la forêt. Tu vois, c'est pour te dire si les vitesses atteintes qui dépassent les 200 km/h au milieu des arbres. Là, il faut un très gros cœur également. On a encore un autre sujet à aborder, je crois, Jordan.
Sujet mercato. On va s'intéresser maintenant à la Formule 1 et à Esteban Ocon de la formation Force India, qui fait l'objet de pas mal de spéculations ces derniers temps. On dit qu'il pourrait rejoindre Renault la saison prochaine. Alors Ocon chez Renault, est-ce une bonne nouvelle pour le pilote français?
Alors pour l'expliquer un tout petit peu, je vais demander son avis évidemment à Adrien, on lui demande ce qu'il ferait à cette place-là, c'est que Renault peut-être, va perdre Carlos Sainz, dans la mesure où Carlos Sainz aurait été prêté par Red Bull, mais il reste dans le giron de Red Bull. Donc ils ont deux écuries, on ne sait jamais ce qui peut se passer à tout niveau. Adrien, est-ce que toi tu quitterais pareil le giron Mercedes, parce qu'on rappelle que Ocon est quand même un peu dans la filière Mercedes pour le moment avec Force India. Est-ce que ce serait envisageable qu'il vienne chez Renault?
Je pense que oui, parce qu'il est français aussi, que c'est cohérent, un pilote français dans une Renault avec, c'est quand même une écurie d'usine. Si chez Mercedes on lui a pas donné la chance maintenant d'aller aux côtés de Lewis Hamilton, à un moment donné pour Esteban Ocon, il faut faire ce step supplémentaire. On sait que chez Force India il y a des soucis un peu d'argent. Maintenant, je pense honnêtement que si Carlos Sainz reste chez Renault, enfin je pense que si il a envie de rester, s'il ne va pas ailleurs, il y restera. Je pense que ça lui appartient. Il fait du très bon travail et la seule solution pour Esteban Ocon que je peux entrevoir, c'est Carlos Sainz va rejoindre son compatriote chez McLaren, Fernando Alonso. Alors c'est la seule possibilité. Et c'est quelque chose de, à mon avis, dans le domaine du réalisable. On sait qu'il s'entend très très bien avec avec Fernando Alonso, son papa aussi, c'est son idole, et c'est quelque chose de possible.
C'est tout à fait possible. Merci beaucoup, Jordan Olivier, d'avoir été avec nous dans ce Radio Paddock et cette dernière ligne droite de l'émission. Et oui, dernière ligne droite, mais pas dernière ligne droite de la journée en matière de sport mécanique. On va se retrouver tout à l'heure, avant le départ du Grand Prix d'Allemagne à 15h10. Mais pour le moment, c'est d'autres encore qu'il n'y a pas beaucoup de lignes droites sur la route du Tour. C'est Christophe Cessieux qu'on va retrouver pour Intégral Tour. Salut Chris.
Bonjour Jean-Luc. Effectivement, pas beaucoup de lignes droites aujourd'hui pour cette étape de baroudeur entre Millau et Carcassonne. Une étape qui a débuté il y a une petite quarantaine de minutes et qui est partie très fort. On y revient dans un instant avec toute l'équipe et on te fera une grande place évidemment pour le Grand Prix dont on rappelle qu'il s'élancera tout à l'heure à 15h10. À tout de suite pour la route du Tour, 15e étape aujourd'hui entre Millau et Carcassonne.